RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir tout le monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi le commentaire et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter la rubrique « Mon Indonésie ». La rubrique suivante est le magazine culturel « L'Indonésie en couleur ». Avant de terminer cette émission, nous présenterons des musiques indonésiennes. Voilà le programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal et le commentaire.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal et on commence avec les titres. Le Japon renforce son partenariat avec l'Indonésie par le projet 2045. Le président de la République d'Indonésie fait de la mer comme l'avenir de la nation. 161 pays ont reçu des pêcheries indonésiennes. Les étudiants sont invités à faire une contre-narration contre le radicalisme et le terrorisme. Encourager les exportations, le ministère du Commerce invite les acheteurs de café Gayo à Gayo. Le ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales estime la géographie est un défi pour la transition vers l'énergie renouvelable. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Le gouvernement japonais tiendra un débat public du 8 au 9 décembre 2018 à Jakarta afin de fournir au public des rapports sur les projets et les investissements convenus par l'Indonésie et le Japon avant l'Indonésie d'or 2045. Le président Joko Widodo et le premier ministre Shinzo Abe ont discuté de méga-projets dans divers domaines, y compris dans le domaine des infrastructures et l'investissement lors d'une réunion bilatérale en marge du sommet de l'ASEAN à Singapour récemment. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Japon en Indonésie, Masafumi Ishi, à la Voix de l'Indonésie jeudi à Jakarta, en marge de la commémoration du 85e anniversaire de l'empereur japonais. Il y a deux semaines, le président Jokowi et le premier ministre Shinzo Abe ont eu une réunion bilatérale à Singapour. Ils ont discuté de nombreux sujets concernant les projets d'infrastructure, les investissements, etc. En outre, ils ont également discuté d'importants projets en 2045. Le président a exprimé ses grandes attentes concernant les résultats du projet. Nous tiendrons une discussion publique du 8 au 9 décembre. Nous ferons un rapport à la communauté sur le projet 2045 et nous espérons en discuter. L'ambassadeur Masumi Ishi a expliqué que le Japon continuerait d'améliorer ses relations de partenariat avec l'Indonésie à l'avenir, notamment en ce qui concerne l'assistance après le séisme et le tsunami dans plusieurs régions d'Indonésie. Le gouvernement japonais espère que le programme Reconstruire au mieux pour les zones touchées par le séisme et le tsunami en Indonésie peut être mis en œuvre dès que possible. Madame Susi Pujasuti, la ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, a déclaré que le président Joko Widodo restait fidèle à sa vision de faire de la mer et des ressources comme l'avenir de la République d'Indonésie. Cette cohérence peut être vue dans la politique du président qui, malgré le desserrement d'un certain nombre d'éléments de la liste des investissements négatifs, de l'autre côté, il n'a pas permis aux parties étrangères d'entrer dans le secteur des pêches de capture. Le ministre Susi Pujasuti, lors d'une conférence de presse à Jakarta jeudi, a déclaré un certain nombre de données récentes comme résultat de la capture d'un certain nombre de bateaux de pêche illégaux. Le responsable de l'agence de la quarantaine de poissons, contrôle et de la qualité, et aussi de la sécurité des pêches du ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Rina, a déclaré que la tendance des recettes de poissons indonésiennes sur le marché mondial continue à augmenter. Il y a maintenant 161 pays qui acceptent du poisson d'Indonésie. Rina Akuburaya, Kalimantan Occidental, a déclaré récemment qu'en termes de revenus, les impôts des États continuaient à augmenter. En 2015, les revenus nationaux non fiscaux provenant de la quarantaine des pêches environ 25 milliards jusqu'à 30 milliards de rupiah. En 2018, il est ciblé à 48 milliards et puis révisé à 75 milliards de rupiah. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le directeur de la prévention de l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, ou BNPT, le général de brigade de la police, Hamli, a demandé aux étudiants de mener une contre-narration dans le but de lutter contre la propagande terroriste, contre le radicalisme et le terrorisme qui parvient sur le campus, en ligne ou non. L'agence de presse Antar a rapporté que Hamli, lors qu'il donnait des conférences sur la nationalité à l'Université islamique d'État Raden Fatah de Palembang dans le sud de Sumatra, a déclaré mercredi que les faits montrent que de nombreux campus ont été exposés au radicalisme et au terrorisme. Il a estimé que cela devrait être réalisé par les étudiants. Le rôle actif des étudiants et de la jeune génération dans la lutte contre la propagande radicale est très important car la cible de la propagande est la jeunesse. La Direction générale du développement des exportations nationales du ministère indonésien du commerce a fait venir des acheteurs potentiels du Canada chez des entrepreneurs du café Gayo à Takengan dans le centre d'Aceh. Cela a été fait comme une manifestation de l'engagement du gouvernement d'encourager les exportations non pétrolières et gazières. La directrice générale de développement des importations nationales, Arlinda, avait fait venir des acheteurs du Canada comme réalisation de la coopération avec les Affaires mondiales du Canada dans le projet d'aide du commerce et au secteur privé. Arlinda, comme rapporté par l'agence de presse Antara, a affirmé qu'au cours de la visite, les acheteurs ont directement vu l'emplacement des caféières pour connaître la qualité du café à travers de bons processus de culture et de production adaptés aux normes de qualité. Le directeur général des énergies renouvelables et de la conservation de l'énergie du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales de la République d'Indonésie, Rida Mulyana, a déclaré que la géographie de l'Indonésie en tant que pays archipel était un défi pour la transition vers l'utilisation des énergies renouvelables. Le Royaume-Uni et le Danemark passaient rapidement de l'utilisation des énergies fossiles aux énergies renouvelables. L'Indonésie veut être comme ça, mais la géographie ne peut pas être assimilée. C'est ce qu'a déclaré Rida Mulyana dans son discours à la Journée de l'énergie renouvelable indonésienne allemande 2018 à Jakarta, mercredi. Selon lui, actuellement, le gouvernement indonésien se concentre sur la distribution équitable de l'énergie dans toutes les régions d'Indonésie, ou ce qu'on appelle l'énergie équitable. mais le gouvernement souhaite également passer simultanément à une énergie plus respectueuse de l'environnement. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les commentaires, les points de vue de RRI World Service, la Voix de l'Indonésie, sur des questions actuelles à l'intérieur et à l'étranger.
Chers lecteurs, voici donc le commentaire et pour le titre « Avant le Brexit ». Mercredi dernier, le 21 novembre 2018, la première ministre britannique, Theresa May, a rencontré des représentants de l'Union européenne afin de se mettre d'accord sur un plan d'adieu britannique de l'Union européenne. Selon le projet, ce plan sera signé par les dirigeants de l'Union européenne le lendemain, le 25 novembre 2018. May est venu pour terminer certaines questions qui posaient encore le problème. Il y a au moins trois problèmes à résoudre. Ces problèmes sont les tensions entre la Grande-Bretagne et l'Espagne sur Gibraltar, la pêche et la circulation des marchandises. Le problème entre la Grande-Bretagne et l'Espagne est assez aigu, car le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, a menacé de veto sur tous les accords de Brexit si l'avenir de Gibraltar ne pouvait pas être résolu de manière bilatérale. Même si c'est assez difficile, la voix de Sanchez était considérée par les diplomates européens eux-mêmes comme une vente pour élever sa popularité avant les élections. Au sein même de l'Union européenne, on souhaite que cette question ne soit pas résolue par le vote. L'Union européenne souhaite que l'accord soit signé à l'unanimité. Le problème de pêche pourrait être résolu parce que la France veut qu'un projet d'accord donne la clarté de l'accès des pêcheurs français aux eaux britanniques. D'autre part, l'Allemagne n'est pas d'accord car elle souhaite que tous les membres se concentrent sur la finalisation de l'avenir des relations de l'Union européenne avec la Grande-Bretagne. Pas seulement avec l'Union européenne, Theresa May elle-même envisage la crise de confiance interne. Un obstacle auquel elle a été confrontée est le vote de censure de son propre parti, le conservateur, qui est dirigé par Jacob Rees-Mogg, qui voulait déplacer la position de May au président du parti. En outre, May doit également convaincre sa coalition en Irlande du Nord, DUP, qui rejettera l'accord sur le Brexit, car il affaiblit la souveraineté britannique. Il y a encore d'autres obstacles pour May, à savoir le projet de vote de l'accord de Brexit par la Chambre basse britannique en décembre. La question se pose encore à cause du soutien du 10e référendum qui s'est renforcé avec au moins 700 milliers de personnes. Si auparavant elle refusait l'option du 2e référendum, donc maintenant May considère le Brexit comme une option également. Avec ces différentes situations, il semble que May doive travailler plus dur à la fois avec l'Union européenne et avec ses affaires intérieures. Le choix n'est qu'un succès au Brexit ou un référendum sans Brexit. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Les faits historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 23 novembre. Le 23 novembre 1980, une série de tremblements de terre a frappé la région l'Italie Sud. Le tremblement de terre italien en 1980 a eu lieu dimanche le 23 novembre 1980 dans la région d'Irpinia, l'Italie Sud. Le séisme de 6,8 sur l'échelle Richter dans le village Conza a fait 2914 morts et plus de 10 000 blessés. Le gouvernement italien dépense environ 58,64 milliards d'euros pour la reconstruction, tandis que 100 millions d'euros proviennent d'autres pays. Le 23 novembre 1996, l'Aeronov Ethiopian Airlines, le vol 961, a été détourné et est tombé dans l'océan Indien. Le vol 961 d'Ethiopian Airlines est un Boeing 767 qui effectue l'itinéraire Addis Abeba, Nairobi. L'avion a été détourné le 23 novembre 1996 et a atterri d'urgence aux îles Le Galawa à Moroni, aux Comores, car il était à court de carburant. Cet incident a causé 123 morts et 52 blessés. Le 23 novembre 2003, le président géorgien Eduard Ambrosevich Shevardnadze a démissionné de ses fonctions. Eduard Ambrosevich Shevardnadze a été président de la Géorgie en 1995 jusqu'il a démissionné le 23 novembre 2003 au milieu de la Révolution des Roses. Sous la direction de Mikhail Gorbatchev, il a été ministre des Affaires étrangères de l'Union soviétique du 1985 au 1990. Les compétences politiques de Shevardnadze lui ont valu le surnom de Tetrimelia Renard Blanc. Cher ami, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers auditeurs, pour la rubrique suivante, voici donc mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie veut accroître ses exportations de produits pharmaceutiques ». L'Indonésie a tenu une réunion des chefs des organismes de réglementation des médicaments et des aliments des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, OCI, à Jakarta, le 21 et 22 novembre 2018. À la réunion des chefs des autorités nationales de réglementation des médicaments, NMRAS, des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique, l'Indonésie a exprimé son intérêt d'étendre ses exportations de produits pharmaceutiques à l'avenir. Le directeur général multilatéral du ministère des Affaires étrangères, Febrien Alfianto Rudiard, comme cité par Republika jeudi, a déclaré que NMRAS pourrait développer le marché indonésien de vaccins. À l'heure actuelle, certains pays membres de l'OCI ne disposent pas encore de cadre réglementaire pour la fabrication de vaccins et l'achat de médicaments. Febrien a déclaré que jusqu'à présent, si ces pays avaient besoin de vaccins, il devait passer par l'OMS. L'une des conditions à l'importation de vaccins est qu'un pays doit disposer d'un cadre réglementaire solide pour la sécurité des vaccins, conformément aux normes de sécurité internationale. Febrien, en marge de la réunion de NMRAS, a déclaré que si un pays n'était pas jugé faute, ce pays devait importer par l'intermédiaire de l'OMS. À l'heure actuelle, l'Indonésie dispose de son propre cadre réglementaire et peut importer ou fabriquer des médicaments et des vaccins de manière indépendante. Par conséquent, à cette réunion de NMRAS cette fois, l'Indonésie ont également partagé leurs connaissances sur le cadre des règles applicables aux médicaments et aux vaccins. Si les pays membres de l'OCI disposent de leur propre cadre réglementaire, ils peuvent emporter des médicaments ou des vaccins sans intermédiaire. Febrien espère donc que ces pays emporteront et étendront le marché des médicaments et des vaccins en provenance d'Indonésie. Pendant ce temps, Penny Kalukita, responsable de l'Agence de surveillance des aliments et des médicaments, a expliqué que NMRAS visait à former des collaborations entre les pays membres de l'OCI afin de renforcer l'indépendance et l'accès aux médicaments et aux vaccins abordables, mais également sûr et de qualité. L'Indonésie souhaite une réelle contribution pour aider les autres membres de l'OTI, y compris dans le secteur de la santé. Penny espère que les pays membres de l'OTI seront plus avancés dans la fabrication et l'exportation de médicaments et de vaccins. Il espère également que l'indépendance de la production de médicaments et de vaccins du pays de l'OTI pourra s'étendre au monde entier. À l'avenir, il espère que l'Indonésie n'est pas seulement supérieure dans l'exportation de vaccins vers les pays de l'OTI, mais également vers d'autres pays. À l'heure actuelle, l'Indonésie et le Sénégal sont deux pays membres de l'OTI assez avancés en termes de production de vaccins. Ces deux pays ont obtenu le statut de pré-qualification de l'OMS, à savoir le remplissement des normes internationales de qualité, de sécurité et de sûreté pour la production de vaccins. Dans son discours, la ministre indonésienne de la Santé, Nila Muluk, a souhaité que toutes les pays de l'OTI puissent s'entraider. Ceci n'est pas seulement pour la santé des musulmans dans les pays membres de l'OTI, mais a également un impact sur l'amélioration de l'économie qui conduit au bien-être des musulmans dans tout le monde. D'autre part, le secrétaire général adjoint de l'OTI, Muhammad Naim Khan, a expliqué que NMRAS devrait renforcer les objectifs des pays membres de l'OTI pour renforcer l'indépendance dans la production de médicaments et de vaccins. Les dirigeants des pays membres de l'OTI soulignaient depuis des années l'importance de la production indépendante des médicaments et des vaccins abordables et de qualité. Il a déclaré qu'actuellement, la majorité des pays membres de l'OTI sont des pays en développement. Par conséquent, des médicaments abordables, sûrs et de qualité sont des éléments importants que nous avons besoin. Serviteur, c'était mon Indonésie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Le gouvernement japonais tiendra un débat public du 8 au 9 décembre 2018 à Jakarta afin de fournir au public des rapports sur les projets et les investissements convenus par l'Indonésie et le Japon avant l'Indonésie d'or 2045. Le président Joko Widodo et le premier ministre Shinzo Abe ont discuté de méga-projets dans divers domaines, y compris dans le domaine des infrastructures, et l'investissement lors d'une réunion bilatérale en marge du sommet de l'ASEAN à Singapour récemment. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur du Japon en Indonésie, Masafumi Ishii, à la Voix de l'Indonésie jeudi à Jakarta, en marge de la commémoration du 85e anniversaire de l'empereur japonais. Il y a deux semaines, le président Jokowi et le premier ministre Shinzo Abe ont eu une réunion bilatérale à Singapour. Ils ont discuté de nombreux sujets concernant les projets d'infrastructure, les investissements, etc. En outre, ils ont également discuté d'importants projets en 2045. Le président a exprimé ses grandes attentes concernant les résultats du projet. Nous tiendrons une discussion publique du 8 au 9 décembre. Nous ferons un rapport à la communauté sur le projet 2045 et nous espérons en discuter. L'ambassadeur Masumi Ishii a expliqué que le Japon continuerait d'améliorer ses relations de partenariat avec l'Indonésie à l'avenir, notamment en ce qui concerne l'assistance après le séisme et le tsunami dans plusieurs régions d'Indonésie. Le gouvernement japonais espère que le programme Reconstruire au mieux pour les zones touchées par le séisme et le tsunami en Indonésie peut être mis en œuvre dès que possible. Madame Susi Pujasuti, la ministre indonésienne des Affaires maritimes et de la pêche, a déclaré que le président Joko Widodo restait fidèle à sa vision de faire de la mer et des ressources comme l'avenir de la République d'Indonésie. Cette cohérence peut être vue dans la politique du président qui, malgré le desserrement d'un certain nombre d'éléments de la liste des investissements négatifs, de l'autre côté, il n'a pas permis aux parties étrangères d'entrer dans le secteur des pêches de capture. Le ministre Susi Pujasuti, lors d'une conférence de presse à Jakarta jeudi, a déclaré un certain nombre de données récentes comme résultat de la capture d'un certain nombre de bateaux de pêche illégaux. Le responsable de l'agence de la quarantaine de poissons, contrôle et de la qualité, et aussi de la sécurité des pêches du ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, Madame Rina a déclaré que la tendance des recettes de poissons indonésiennes sur le marché mondial continuait à augmenter. Il y a maintenant 161 pays qui acceptent du poisson d'Indonésie. Rina Akuburaya, Kalimantan Occidental, a déclaré récemment qu'en termes de revenus, les impôts des États continuaient à augmenter. En 2015, les revenus nationaux non fiscaux provenant de la quarantaine des pêches environ 25 milliards jusqu'à 30 milliards de rupiah. En 2018, il est ciblé à 48 milliards et puis révisé à 75 milliards de rupiah. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie, diffusé depuis Jakarta. Le directeur de la prévention de l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, ou BNPT, le général de brigade de la police, Hamli, a demandé aux étudiants de mener une contre-narration dans le but de lutter contre la propagande terroriste, contre le radicalisme et le terrorisme qui parvient sur le campus, en ligne ou non. L'agent de presse Inter a rapporté que Hamli, lorsqu'il donnait des conférences sur la nationalité à l'Université islamique d'État Raden Fatah de Palembang dans le sud de Sumatra, a déclaré mercredi que les faits montrent que de nombreux campus ont été exposés au radicalisme et au terrorisme. Il a estimé que cela devrait être réalisé par les étudiants. Le rôle actif des étudiants et de la jeune génération dans la lutte contre la propagande radicale est très important car la cible de la propagande est la jeunesse. La Direction générale du développement des exportations nationales du ministère indonésien du commerce a fait venir des acheteurs potentiels du Canada chez des entrepreneurs de café Gayo à Takengang dans le centre d'Aceh. Cela a été fait comme une manifestation de l'engagement du gouvernement d'encourager les exportations non pétrolières et gazières. La directrice générale du développement des importations nationales, Arlinda, avait fait venir des acheteurs du Canada comme réalisation de la coopération avec les affaires mondiales du Canada dans le projet d'aide du commerce et au secteur privé. Arlinda, comme rapporté par l'agent de presse Antara, a affirmé qu'au cours de la visite, les acheteurs ont directement vu l'emplacement des caféières pour connaître la qualité du café à travers de bons processus de culture et de production adaptés aux normes de qualité. Le directeur général des énergies renouvelables et de la conservation de l'énergie du ministère de l'Énergie et des Ressources Minérales de la République d'Indonésie, Rida Mulyana, a déclaré que la géographie de l'Indonésie en tant que pays archipel était un défi pour la transition vers l'utilisation des énergies renouvelables. Le Royaume-Uni et le Danemark passaient rapidement de l'utilisation des énergies fossiles aux énergies renouvelables. L'Indonésie veut être comme ça, mais la géographie ne peut pas être assimilée. C'est ce qu'a déclaré Rida Mulyana dans son discours à la Journée de l'énergie renouvelable indonésienne allemande 2018 à Jakarta, mercredi. Selon lui, actuellement, le gouvernement indonésien se concentre sur la distribution équitable de l'énergie dans toutes les régions d'Indonésie, ou ce qu'on appelle l'énergie équitable. Mais le gouvernement souhaite également passer simultanément à une énergie plus respectueuse de l'environnement. C'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Les émissions de la Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/FRENCA.
connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia. Chers amis, nous continuons notre émission avec le magazine culturel introduisant la tradition Ganwoja. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. Il y a diverses tribus qui habitent l'île Flores, Nusa Tenggara Est. La plupart conservent encore les traditions et les coutumes de leurs ancêtres. Par exemple, la tribu Sage du village Sage, village Ranakolong, district Kota Komba, région Manggarai Est, Flores, Nusa Tenggara Est. Ils ont un héritage ancestral qui continue d'être préservé dans leur mbaru mezé, soit maison traditionnelle. Chaque année, le rituel Ganwoja est toujours pratiqué par des anciens autochtones et des membres de la tribu Sage. Même lorsque ce rituel traditionnel a lieu, les résidents de la tribu Sage d'autres villes de l'île Flores doivent être présents. Ganwoja, en langue color, dans la partie sud de la région Manggarai Est, est une langue figurative. Gan signifie manger, woja signifie riz. Ganwoja est une tradition de manger du nouveau riz. En outre, la tradition Ganwoja a également été interprétée comme une célébration de la récolte annuelle par tous les membres de la tribu Sage. Cette tradition indique également que tous les résidents terminent les longues années de la saison de plantation dans les champs et les terres sèches, puis commence la période de plantation de riz, de maïs et de haricots au cours de la nouvelle année du calendrier agricole du peuple de Manggarai Est. Cette tradition est également respectée s'il y a des membres de tribus décédés en signe d'adieu au peuple tribal Mbaru Mezé. Pour la tribu Sage, la tradition Ganwoja est lancée pour être reconnaissante pour la récolte de l'année précédente, soit bonne, soit échouée. En plus d'un rituel pour demander la bénédiction du propriétaire de l'univers, les ancêtres de la tribu Sage et de l'univers, afin que ce qui est planté dans la nouvelle année produise des rendements abondants. Si les habitants de la tribu Sage ne pratiquent pas ce rituel, Mbaru Gendang, il est interdit au début de la nouvelle année, de planter du riz, de maïs, etc. sur la terre ferme et les champs du territoire Ulayat de la tribu Sage. Les offrandes à préparer pour les ancêtres comprennent les poulets rouges et les cochons noirs. Tous les matériaux doivent être rassemblés par les membres de la tribu Sage. Avant la tenue du rituel Ganwoja, il était interdit aux résidents de la tribu Sage de planter du riz, du maïs et d'autres espèces sur la terre ferme et les champs. Le rituel Ganwoja doit avoir lieu à Mbaru Gendang ou dans la maison traditionnelle de la tribu Sage. Pendant le rituel Ganwoja, un rituel Kedaruga Manuk a également été organisé piétinant des œufs de poules indigènes pour les épouses des fils de la tribu Sagé qui ne l'avaient pas encore mis en œuvre. Pendant le rituel Ganwoja, la femme d'un garçon était légitime en tant que membre de Mbaru Gendang. Les femmes peuvent entrer dans la maison traditionnelle. Ensuite, les anciens traditionnels font Totok Manuk ou Tutur Adat dans la maison traditionnelle. Les anciens traditionnels organisent un rituel en tenant un poulet et tous les membres de la tribu Sagé sont assis en cercle à l'intérieur de la maison traditionnelle. Ensuite, le poulet a été coupé à Watu Nurung et des gouttelettes de sang de poulet ont été déposées sur les pieds des épouses de la tribu Sagé en signe de respect et d'appréciation. Les anciens traditionnels ont ensuite remis des offrandes sur feuilles de betel à Watu Nurung dans la maison traditionnelle. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Warna-warni. L'Indonésie en couleur présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Serviteurs, bonsoir, voici l'Indonésie en couleur. Pour ce soir, nous vous informons sur le week-end de Bali au musée de Volcan Kunde. Restez toujours avec nous, la Voix d'Indonésie sur www.voinews.id. Serviteur, l'ambassadeur d'Indonésie au Royaume des Pays-Bas, I Gusti Awe Sakapuja a présenté la danse bakong avec l'accompagnement du gamelan Suara Shanti d'Amstelvin. Le spectacle a reçu un accueil enthousiaste des visiteurs du week-end à Bali au musée Volkenkunde de Leiden à la fin du week-end dernier. La représentation de l'ambassadeur I Gusti Awe Sakapuja faisait partie de l'événement du week-end à Bali au musée Volkenkunde. Cette activité à Leiden fait partie de la série de Bienvenue de la Grande Exposition Balinaise organisée depuis l'octobre dernier. Les 150 collections d'œuvres d'art balinaises célèbres sont exposées dans l'exposition Welcome to Paradise. L'exposition se déroulera jusqu'au 26 mai 2019. Le gamelan Suara Shanti a ouvert la représentation en chantant Sidom Ladrang qui a permis aux spectateurs de se familiariser avec l'atmosphère de la vie quotidienne à Bali. Pendant le week-end, des 17 et 18 novembre, les visiteurs n'ont pas seulement visité l'exposition, mais également assisté à des spectacles culturels et assisté à divers ateliers. Le spectacle culturel présente également la danse Kembang Girang du studio de danse Dwi Bumi et la danse Rangda. L'ambassadeur I Gusti Agung Wesakapuja, après sa performance, a déclaré que Bali était une destination touristique réputée aux Pays-Bas. Selon les informations, plus de 200 000 Néerlandais se rendent à Bali chaque année. Anna Agung Bagus Krishna Suteja, entraîneur de gamelan Suara Shanti, qui vient de terminer son programme de maîtrise à Kodrat Rotterdam, et Afke, l'un des citoyens néerlandais des activistes de la culture balinaise, organise un atelier de danse balinaise. Pendant le week-end, les visiteurs n'ont pas seulement apprécié l'exposition, mais également assisté à des spectacles culturels et assisté à divers ateliers. Il y avait également des présentations sur Bali, entre autres avec des démonstrations de la cuisine balinaise, la préparation d'offrandes et la fabrication d'objets d'art. Le musée Volcan Kunde, situé à 19 km de la ville de La Haye, possède la plus grande collection de Bali en dehors de l'Indonésie. Ils ont également des collections de divers pays tels que l'Asie, l'Afrique et le Moyen-Orient. C'est Rita, c'est à l'Indonésie encore pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir les auditeurs de RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie. N'importe où que vous soyez, on se retrouve avec moi, Tiwi, dans la rubrique du magazine musical qui vous présente les chansons indonésiennes. Dans cette édition, je vais vous présenter les chansons de la province de Kalimantan de l'Est. Restez avec nous à RRI du Service Mondial de la Voix de l'Indonésie que vous allez écouter à la diffusion en direct de www.voinews.id à 3325 kHz ou à l'application de RRI Play sur votre téléphone portable. Pour offrir l'édition cette fois-ci, je vous présente une chanson intitulée Dendam Kampong, chantée par Shafa Meisha.
Thank you.
Voilà la chanson de Shafa Meisha dont le titre est Dendam Kampong. La chanson Dendam Kampong raconte du désir ardent d'une personne de sa ville natale. Par cette chanson, on espère que les résidents qui migrent se souviennent toujours de leur ville natale. Chers auditeurs, écoutons la chanson de Shafa Meisha intitulée Dendang Melayu Kutai. Bonne écoute! Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée Dendang Melayu Kutai par Shafa Meisha. Cette chanson raconte une danse typique du Kalimantan de l'Est, à savoir la danse de Jepen. La danse de Jepen a été développée par la tribu de Kutai et la tribu de Banjar qui habitaient à la zone côtière de la rivière de Mahakam. La variété des mouvements dans cette danse est influencée par la culture malaise et islamique. Dans le passé, cette danse était présentée pour le divertissement lors du couronnement du roi du sultanat de Kutai Kartanegara à Tenggarong. Et pour la danse pour les jeunes, par exemple, pour faire des promesses, etc. Mais depuis 1970, Cette danse a généralement été présentée pour accueillir des invités de la région, des cérémonies de mariage et des événements lors des jours fériés tels que l'anniversaire de la province de Kalimantan de l'Est, l'anniversaire de la ville de Tenggarong et l'anniversaire de la ville de Samarinda. Chers auditeurs, ensuite, la chanson que nous allons écouter s'intitule « Nasi Bekepor » chantée par Nadira. Bonne écoute. Voilà la chanson intitulée Nasi Bekepor, chantée par Nadira. Cette chanson raconte du délice et de nourriture typique de Kalimantan de l'Est, à savoir le riz de Bekepor. Le riz de Bekepor est un riz typique de la tribu de Kutai, qui au début, à l'ère du royaume, ce menu était uniquement destiné au roi de Kutai, mais maintenant tout le monde peut manger cet aliment qui commence à être rare. Chers auditeurs, c'est toute l'édition du magazine musical d'aujourd'hui. Pour la terminer, je vous donne une chanson de Nadira et Shafa Meisha dont le titre est Kuliner Benua. Bonne écoute et à bientôt.
Kuliner dia beraneka ragam.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Écoutez tous les jours nos émissions en ondes courtes sur 3325 kHz.
Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.